Elle n'était pas extrêmement affectée. J'aurais préféré qu'elle le soit. Si la dépression sereine existe, alors c'est dans cet état qu'était Sadie ce soir de Pâques. Elle était assise dans son fauteuil avec une assiette de chop suey intacte devant elle. Elle avait perdu du poids. Son long corps semblait flotter dans la chemise d'hôpital blanche qu'elle a ramenée contre elle quand elle m'a vu entrer. Elle m'a souri cependant, avec le côté de son visage qui pouvait encore sourire, et m'a tendu sa bonne joue à embrasser. « Bonsoir, George. Il vaut mieux que je t'appelle comme ça, tu ne crois pas ?»« Peut-être bien. Comment vas-tu, ma pépette ?» Ils disent que je vais mieux, mais j'ai l'impression que mon visage a été aspergé d'essence et enflammé. C'est parce qu'ils sont en train de me sevrer du médicament antidouleur. Il ne manquerait plus que je devienne accro à la drogue. S'il t'en faut davantage, je connais quelqu'un. Elle a secoué la tête. Non, ça m'embrouille le cerveau et j'ai besoin de penser. Et puis... ça me fait perdre le contrôle de mes émotions. J'ai eu une altercation de taille avec ma mère et mon père. Il y avait en tout et pour tout un seul fauteuil, sauf si on comptait le water dans le coin. Alors je me suis assis sur le lit. La surveillante générale m'a mis au parfum. D'après ce qu'elle a entendu, tu avais toutes les raisons de péter un fusible. Peut-être, mais à quoi ça sert ? « Maman ne changera jamais. Elle peut raconter pendant des heures qu'elle a failli mourir en me mettant au monde. Mais elle n'éprouve pratiquement aucun sentiment pour les autres. C'est un manque de tact, bien sûr, mais c'est aussi un manque de beaucoup plus que ça. Il y a un mot, mais je n'arrive pas à le retrouver. L'empathie ? C'est ça. Et elle a la dent très dure. Après les années... elle a fini par réduire mon père à l'état de souche. Il ne dit quasiment plus rien aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de les revoir. Oh, si. J'aimais de moins en moins sa voix détachée, trop calme. Maman dit qu'ils vont m'aménager mon ancienne chambre. Et comme je n'ai pas vraiment d'autre endroit où aller... ta maison est à Jody. Ton travail aussi. Oh, je crois que nous en avons déjà parlé. Je vais donner ma démission. Non, c'est dit, non. C'est une très mauvaise idée. Elle sourit, du mieux qu'elle le pouvait. On croirait entendre Miss Ellie. Qui ne t'a pas cru quand tu l'avertis que Johnny représentait un danger? Elle a réfléchi un instant à ça, puis a ajouté « Moi non plus, évidemment ». Mais j'ai toujours été une cruche avec lui. Tu as une maison. C'est vrai. Et un prêt immobilier que je n'ai pas les moyens de rembourser. Je vais devoir y renoncer. Je me chargerai des mensualités. Ça, ça a percuté. Elle a eu l'air choquée. Tu ne peux pas te le permettre. Si, si, je peux. C'était la vérité. Pour un temps, au moins. Et puis, il y avait toujours le derby du Kentucky et la victoire de Châteauguay. Je quitte Dallas pour m'installer chez Deke. Il ne me demande pas de loyer, donc ce que j'économise pourra servir à payer ta maison. Une larme glissa jusqu'au bord de son œil droit et y demeura tremblante. Tu n'as pas dû bien comprendre. Je ne peux pas m'occuper de moi, pas encore. Et je ne peux être prise en charge... que chez moi, où maman embauchera une infirmière pour les soins et la toilette. J'ai encore un peu de fierté. Pas beaucoup, mais encore un peu. Je m'occuperai de toi. Elle me regarda fixement, les yeux écarquillés. Quoi ? Tu m'as bien entendu ? En ce qui me concerne, Sadie, tu peux te coller ta fierté là où le soleil ne brille jamais. Il se trouve que je t'aime. Et si tu m'aimes, tu vas arrêter de me servir ces conneries délirantes comme quoi tu vas rentrer chez toi te faire bouffer par ton crocodile de mer. J'ai réussi à lui tirer un maigre sourire, Puis elle est restée silencieuse, réfléchissant, les mains posées sur ses genoux, saillant sous sa bien mince chemise. « Tu es venue au Texas pour faire quelque chose de particulier. Pas pour être l'infirmière à domicile d'une bibliothécaire trop idiote pour s'apercevoir qu'elle courait un danger. Ma mission à Dallas est repoussée. » « Elle peut l'être ?»«
Oui. »
Et voilà comment les choses furent décidées. Ce fut aussi simple que cela. Lee partait pour la Nouvelle-Orléans et moi je rentrais à Jody. Le passé ne cessait de s'interposer et il avait remporté cette manche. « Tu as besoin de temps, c'est dit. Et j'ai du temps. Autant que nous le passions ensemble. »«
Tu ne peux plus me désirer. »
Elle a dit ça d'une toute petite voix, à peine plus qu'un murmure.
« Pas avec le physique que j'ai désormais. »
« Si, je te désire. » Elle me regarda avec des yeux effrayés d'espérer et qui espéraient quand même.
« Pourquoi voudrais-tu de moi ?»«
Parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Le côté intact de sa bouche se mit à trembler. La larme glissa sur sa joue, suivie par d'autres.
« Si je ne dois pas rentrer à Savannah, si je ne dois pas vivre avec eux, avec elles, alors peut-être que je pourrais, je ne sais pas, aller un tout petit peu mieux. »
Je l'ai prise dans mes bras. « Tu iras encore mieux que ça. »
« Jake ?»
Sa voix était étouffée par les larmes.
« Tu veux bien faire quelque chose pour moi avant de partir ?»
« Oui. Quoi, ma pépette ? Vire-moi ce maudit chop suey. Cette odeur me rend malade. » L'infirmière, à la carrure d'arrière de football et à la montre épinglée sur sa poitrine généreuse, s'appelait Rhonda McGinley. Et le 18 avril, elle insista pour pousser le fauteuil roulant de Sadie non seulement jusqu'à l'ascenseur, mais carrément jusqu'au parking, où des quais attendaient à côté de la portière ouverte de son break.
« Et que je ne vous revoie pas ici, mon chou !»
a dit McGinley à Sadie quand nous l'eûmes aidé à s'installer dans la voiture. Sadie sourit distraitement et ne dit rien. Elle était, n'ayons pas peur des mots, plus shootée qu'une fusée propulsée dans l'azur. Le docteur Ellerton était passé le matin même examiner sa plaie et décider l'injection d'une dose supplémentaire d'antidouleur. McGinley se tourna vers moi. Elle va avoir besoin de beaucoup de tendresse et d'attention dans les prochains mois. Je ferai de mon mieux. Nous avons démarré. À une quinzaine de kilomètres au sud de Dallas, Deke m'a interpellé.
« George, ôtez-moi ça de sa main et virez-le-moi par la fenêtre. Moi, je garde l'œil sur cette foutue circulation. »
Sadie s'était endormie, une cigarette allumée entre les doigts. Je me suis penché par-dessus le dossier du siège pour l'en débarrasser. Elle a gémi quand je l'ai touchée et dit
« Oh non, Johnny, s'il te plaît, non !»
J'ai croisé le regard de Deke. Une seconde à peine, mais ce fut suffisant pour y lire que nous pensions la même chose. La route sera longue, bien longue. J'ai emménagé dans la maison de style espagnol de Deke sur Sam Houston Road, du moins pour satisfaire à la curiosité malsaine du public. En réalité, je me suis installé chez Sadie, au 135 Beatry Lane. Je redoutais ce que nous risquions de trouver en rentrant, et je pense que Sadie, droguée ou pas, l'était aussi. Mais Miss Ellie et Joe Pete, la prof de SF, avaient recruté quelques jeunes filles de confiance, et celle-ci avait passé une journée entière avant le retour de Sadie à nettoyer, cirer et éliminer toute trace de la dégoûtante poésie de Clayton sur les murs. La moquette du salon avait été retirée et remplacée. La neuve était d'un gris industriel, sûrement pas une couleur excitante, mais sans doute un choix judicieux. Les choses grises accrochent peu les souvenirs. Ses vêtements saccagés avaient été débarrassés et remplacés par des neufs. Sadie n'a fait aucun commentaire à propos de la moquette ni des vêtements. Je ne suis même pas sûr qu'elle les ait remarqués. Je passais mes journées chez elle, lui cuisinant ses repas, m'occupant de son petit jardin, qui se dessécherait, mais ne mourrait pas tout à fait sous un nouvel été torride dans le centre du Texas, et lui lisant « Bleak House » de Charles Dickens. Nous sommes également devenus fans de plusieurs des feuilletons de l'après-midi, « The Secret Storm », « Young Doctor Malone » et notre préféré, « The Edge of Night ». Sadie cessa de se faire la raie au milieu et opta pour une raie à droite, dans un style à la Veronica Lake, qui masquerait le plus gros de ses cicatrices quand le pansement serait définitivement retiré. La première chirurgie reconstructrice, un travail d'équipe impliquant la collaboration de 4 médecins, était prévue pour le 5 août. Ellerton avait annoncé qu'il en faudrait au moins 4 de plus. Je rentrais chez Deke après avoir dîné avec Sadie. Elle avalait rarement plus que quelques bouchées, car les petites villes sont pleines de grands yeux reliés à des bouches bavardes. Il valait mieux que ces grands yeux voient ma voiture garée dans l'allée de Deke après le coucher du soleil. Une fois que la nuit était tombée, je refaisais à pied les 3 kilomètres qui me séparaient de chez Sadie, où je dormais sur le nouveau clic-clac jusqu'à 5 heures du matin. C'était un sommeil entrecoupé le plus souvent, car les nuits où Sadie ne me réveillait pas en hurlant et en se débattant pour échapper à ses cauchemars étaient rares. Dans la journée, John Clayton était mort. La nuit, il continuait à la traquer avec revolver et couteau. J'allais la retrouver, et je la calmais du mieux que je pouvais. Parfois, elle revenait dans la salle de séjour avec moi pour fumer une cigarette avant de retourner se coucher d'un pas traînant, plaquant toujours ses cheveux comme une protection sur le côté estropié de son visage. Elle ne me laissait pas lui changer son pansement. Elle le faisait elle-même dans la salle de bain, derrière la porte fermée. Après un cauchemar particulièrement violent, je l'ai trouvée debout près de son lit, nue et en larmes. Elle était devenue d'une maigreur effrayante. Sa chemise de nuit était en boule à ses pieds. Elle m'a entendu et s'est tournée vers moi, un bras sur les seins, l'autre main posée sur l'entrejambe. Son geste a rabattu ses cheveux sur son épaule droite et j'ai vu les cicatrices gonflées, les points de suture violacés, la chair flasque et fripée au-dessus de sa pommette.
« Sors d'ici !»
m'a-t-elle hurlé.
« Me regarde pas comme ça ! Sors !»«
Sadie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi as-tu enlevé ta chemise de nuit ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
J'ai mouillé mon lit, pigé ! Il faut que je change mes draps ! Alors s'il te plaît, sors ! Laisse-moi me rhabiller !»
Je suis allé au pied du lit prendre la courte pointe qui y était repliée et je l'ai drapée autour d'elle. Quand j'ai relevé un bord pour lui faire une sorte de col et cacher sa joue, elle s'est calmée. « Va dans la salle de séjour et fais attention à ne pas te prendre les pieds dans ce truc. Fume une cigarette. Je vais refaire ton lit. »«
Non, Jake, c'est dégoûtant. »
Je l'ai prise par les épaules. « C'est ce que Clayton aurait dit, mais il est mort. C'est rien de plus qu'un peu de pipi. »«
Tu es sûr ?»«
Oui, mais avant que tu t'en ailles... » J'ai abaissé son col de fortune. Elle a tressailli et fermé les yeux, mais ne s'est pas dérobée. Elle supportait avec stoïcisme, et je trouvais que c'était déjà un net progrès. J'ai embrassé la chair affaissée qui était naguère sa joue, puis j'ai remonté la courte pointe pour la cacher.
« Comment peux-tu »
m'a-t-elle demandé sans ouvrir les yeux.
« C'est affreux !»«
Non ! » C'est juste une autre partie de ce toit que j'aime, Sadie. Maintenant, va dans la pièce d'à côté pendant que je change tes draps. Une fois cela fait, je lui ai proposé de me coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle a tressailli comme quand j'avais baissé la courte pointe et secoué la tête.
« Je ne peux pas, Jake. Je suis désolé. »
Un pas après l'autre, me suis-je dit en traversant la ville pour retourner chez Deke à la première lueur grise de l'aube. un pas après l'autre. Le 24 avril, j'ai averti Deke que j'avais une chose à faire à Dallas et lui ai demandé s'il pouvait rester avec Sadie jusqu'à mon retour, que j'estimais aux environs de 21h. Il a accepté bien volontiers. Et à 17h, j'étais assis en face de la gare de bus Greyhound de South Polk Street, près de l'intersection entre la 77 et les quatre voies de la toute jeune I-20. Je lisais, ou faisais semblant de lire, le tout dernier James Bond, l'espion qui m'aimait. À l'admi, un break est entré dans le parking de la gare. Ruth Payne était au volant. Lee est descendu, est allé ouvrir la portière arrière, et Marina est descendue avec June dans les bras. Ruth Payne est restée au volant. Lee n'avait que deux bagages. Un sac polochon vert olive et un étui à fusil matelassé, du genre avec deux poignées. Il les a transportés jusqu'au bus Scenic Cruiser dont le moteur tournait au ralenti. Le conducteur a pris le sac et le fusil et, après un coup d'œil rapide au billet de Lee, les a rangés dans la soute à bagages. Lee a rejoint la porte du bus, puis s'est retourné pour embrasser sa femme, d'abord sur les deux joues, puis sur la bouche. Il a pris le bébé et l'a chatouillé sous le menton avec son nez. June a ri. Lee a ri avec elle, mais j'ai vu briller des larmes dans ses yeux. Il a embrassé June sur le front, l'a serrée contre lui, puis l'a rendue à Marina et a gravi le marchepied du bus sans un regard en arrière. Marina est retournée au break où Ruth Payne, maintenant debout sur le parking, l'attendait. June a tendu ses bras à la femme qu'il a prise avec un sourire. Elles sont restées là un moment, à regarder d'autres passagers embarqués, puis elles sont remontées en voiture et enfilées. Moi, je suis resté où j'étais jusqu'à ce que le bus démarre, à 18h précises. Le soleil, qui descendait à l'ouest dans une effusion sanglante, s'est réverbéré sur la fenêtre de destination, l'oblitérant momentanément. Puis j'ai pu la lire à nouveau. Trois mots qui signifiaient que Lee Harvey Oswald était sorti de ma vie, du moins pour le moment. Express, Nouvelle-Orléans. J'ai regardé le bus monter la rampe d'accès à l'autoroute 20 Est, puis je suis retourné à pied à ma voiture que j'avais garée à deux rues de là et je suis rentré à Jody. Le signal d'alarme, encore lui. Alors que je n'avais aucune raison concrète de le faire et qu'il me fallait commencer à surveiller ma réserve de dollars, j'ai payé le loyer de mai de mon appartement de West Neely Street. Ce qui me poussait, c'était un sentiment vague mais tenace que je devais conserver une base d'opération à Dallas. Deux jours avant le derby du Kentucky, je suis allé dans Greenville Avenue avec la ferme intention de miser $500 sur Châteauguay placé. Ce serait moins voyant, raisonnais-je, que de parier sur la victoire du Canasson. Je me suis garé à quatre rues de Faith Financial et j'ai verrouillé ma voiture, précaution nécessaire dans cette partie de la ville, même à 11h du matin. J'ai d'abord marché d'un pas vif, puis, encore une fois sans aucune raison concrète, j'ai commencé à traîner les pieds. À un demi-pâté de maison de la boîte à Paris, camouflé sous une devanture de banque de prêt, je me suis carrément arrêté. J'apercevais de nouveau le bouc, sans visière en cette fin de matinée, appuyé au chambranle en train de fumer une cigarette sur le seuil de sa boutique. Là, debout dans un flot de lumière crue, encadré par les parenthèses obscures et nettement dessinées des montants de la porte, il ressemblait à un personnage d'un tableau d'Edward Hopper. Il n'y avait aucune chance qu'il m'ait aperçu, car il observait une voiture garée dans la rue. Une Lincoln de couleur crème avec une plaque d'immatriculation verte. Au-dessus du numéro figuraient les mots « Sunshine State », ce qui ne signifiait pas qu'il s'agissait d'une harmonique, ce qui ne signifiait certainement pas que la bagnole appartenait à Eduardo Gutiérrez de Tempa, le bouc qui avait l'habitude de m'accueillir en souriant et en disant « Voici mon Yankee de Yankeeland !» Celui qui, presque à coup sûr, avait fait incendier ma maison en bord de mer. N'importe. J'ai fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture avec, au fond de ma poche, les 500 billets que j'avais prévu de parier. Le signal d'alarme, vous dis-je.